France Inter, le 18-20.
Jean-Pierre Chevènement a essayé, c'était en 97-98, une police de proximité au plus près des gens et des quartiers qui connaît les lieux comme ceux qui y habitent. En 2003, fin de l'expérience après une phrase désormais célèbre de Nicolas Sarkozy, vous n'êtes pas des travailleurs sociaux, organiser des matchs de rugby c'est bien, mais ce n'est pas la mission première de la police, c'est fermer le banc. Aujourd'hui, l'idée revient sous un autre nom, police de sécurité du quotidien, les concertations, les expérimentations commencent cet automne, c'était une promesse de campagne. Alors pourquoi faire ? Qu'est-ce que vous attendez dans votre quartier de cette police ? Est-ce que vous regrettez la précédente ? Est-ce que vous voyez en quoi elle sera efficace ? Est-ce qu'elle vous aidera à mieux vivre ? Quels moyens faut-il ? On a une heure pour en parler ensemble. Le téléphone sonne, est à vous.
Fabienne Synthèse. Le téléphone sonne.
Et Samir, vous êtes le premier, soyez le bienvenu sur France Inter, on vous écoute.
Merci, bonsoir.
Bonsoir.
Je suis favorable à la police de proximité pour deux raisons. La première, c'est un peu ce que vous disiez bien avant avec Chevènement sur cette proximité et puis cette connaissance des lieux, des gens et des problématiques. Donc on ne peut pas connaître ces problématiques sans faire aussi un peu, entre guillemets, connaître les liens, enfin, comment les gens vivent, etc. Donc le fameux social. Et ça ne se résume pas, de manière caricaturale, à jouer au football, etc. C'est mal connaître la réalité de terrain. Deuxièmement, ça permet aussi d'être au plus près des problèmes que les gens connaissent au quotidien, que ce soit sur des problèmes de stationnement, des problèmes de tapage, de conflits aussi de voisinage, le squat d'eau, etc., c'est ce qui revient beaucoup. Et donc une police de proximité permettra d'être réactive, de répondre au plus près et au plus juste des problématiques. Et donc ça, c'est le rôle, bien sûr, de la police nationale, mais aussi de ce qui peut exister en matière de police municipale. Donc c'est en ça que je trouve que c'est intéressant. Et ça permettra de dégager, comme on parle de problèmes de moyens, etc., je me souviens de la RGPP, eh bien la police nationale, de mener des actions, que ce soit en matière de, comme on est en état d'urgence, eh bien sur les questions de terrorisme, sur les questions de stup, sur les bandes organisées, etc., et donc de recentrer ce travail. Et puis,
allez-y, une petite dernière peut-être pour la route.
Voilà, de les aider, parce que on n'en parle pas trop, mais il y a beaucoup de rédactions, de procédures, etc. La simplification, l'aide, après, je ne sais pas comment on peut imaginer ça avec les policiers de proximité, pour essayer de les décharger de cela ou de faire autrement pour qu'ils soient sur le terrain, parce que j'ai le lien avec eux, ils demandent ça. Et très franchement, il faut les encourager parce qu'on a besoin d'eux. On a besoin de cette police de proximité.
Samir, vous avez serré les problèmes et ce qu'on abordera ensemble. Pour vous répondre, Jean-Marie Villain, maire UDI de Viry-Châtillon, soyez le bienvenu.
Bonjour.
Nous sommes avec Yves Lefebvre, qui est secrétaire général unité SGP Police Force Ouvrière. Bonjour à vous.
Bonsoir.
Majid Siocine est là également, vous êtes médecin et militant associatif. Et puis Emmanuel Leclerc, journaliste au service enquête et justice de France Inter. Je disais que Samir avait bien résumé, on va dire, les problématiques. Plus de confiance, plus près des problématiques et en même temps attention aux effectifs. Il parle aussi de simplification policière. En gros, tout y est. Est-ce que vous voulez répondre, Yves Lefebvre, d'abord sur plus de confiance et plus près des gens ? Est-ce que c'est des choses qu'on vous réclame et que vous entendez,
oui,
vous, la police ?
Ce sont des choses que nous réclamons et c'est des choses que nous réclamons aussi. Aujourd'hui, prétendre à ne pas vouloir rapprocher la police de sa population et la population de sa police serait, je dirais, purement et simplement suicidaire. Alors effectivement, il faut, je crois qu'avant, je l'ai dit à Gérard Collomb le 20 juillet, j'ai eu l'occasion de m'exprimer à plusieurs reprises dans certains médias, quand il a fait ses annonces à travers le Figaro, c'est un beau challenge. Mais ne mettons pas, passez-moi l'expression, la charrue avant les bœufs. Faisons l'état des lieux, appréhendons tout et donnons des moyens. Pourquoi la police de Chevènement, la police de proximité de Chevènement n'a pas marché? Déjà parce que là, effectivement, on n'avait pas donné les moyens, ni humains, ni matériels, et on était placé exclusivement, je dirais, dans l'aspect préventif. Aujourd'hui, on ne pourra faire de la prévention efficacement que si on sait l'associer à la répression. Alors effectivement, il faudra simplifier les procédures pénales.
Samir parlait de caricature. Il y a eu une forme de caricature de ce qu'était la police de proximité, et y compris d'ailleurs telle qu'on vous l'a amené, vous, les policiers.
Oui, on nous l'a amené tout à l'heure. On avait l'occasion, avant d'entrer sur le plateau, d'en débattre. Hein, et effectivement, à l'époque, on nous demandait d'aller sur nos points de patrouille, à nos points d'îlotiers, sans avoir de véhicule. Donc il fallait comprendre les transports urbains. Et bien évidemment, on était qui plus est. On nous demandait d'être affectés sur ces quartiers du lundi au vendredi. De 12h à 20h, au moment où les gens, très largement majoritaires, prétendent à vouloir vivre, je dirais, dans une certaine quiétude. Mais les policiers n'étaient plus là quand ils rentraient, et qui plus est, les policiers n'étaient pas là les week-ends ni les jours fériés. Donc on a fait n'importe quoi, c'était un effet, je dirais, un effet plus ou moins mirage, et il ne faut pas que Gérard Collomb recommette les mêmes erreurs.
Jean-Marie Villain, vous qui êtes maire à Viry-Châtillon, je sais que vous avez augmenté votre police municipale, mais ça vous intéresse, vous vous dites d'accord, pourquoi pas chiche, on réessaye, on recommence la police de proximité?
Alors, de toute façon, il ne faut jamais dire jamais, par principe et d'une manière dogmatique. Donc tout ce qui peut apporter de la sécurité supplémentaire, du lien social aussi dans une ville comme Viry-Châtillon, mais aussi dans toutes les villes, hein, c'est pas spécifique à Viry-Châtillon, de toute façon, ça a au moins le mérite d'essayer de faire avancer les choses. Pour autant, et je rejoins monsieur sur la problématique, d'abord poser les problèmes, voir exactement où on doit faire, parce qu'on entend beaucoup parler de police de proximité ou de police de sécurité dans les quartiers. Moi, je suis navré de vous dire que dans Viry-Châtillon, j'aimerais bien qu'on aille partout. Il y a des gens qui sont dans des zones pavillonnaires, des personnes retraitées qui aimeraient bien, eux aussi, avoir ce contact, avoir ce lien. Les directeurs d'école le souhaiteraient aussi.
Et le débat continue. Je voudrais qu'on entende Christophe. Bonjour, bonsoir Christophe. Bienvenue sur France Inter. On vous écoute.
Donc voilà, moi pour la police de proximité, je vais vous dire oui, non. Oui, moi j'ai connu un petit peu la police de proximité dans les années 87-90. C'était juste un uniforme, se balader dans les quartiers, bonjour, au revoir et c'est tout. Donc à partir de là, il y a une autre problématique qui rentre en cause, c'est que vous avez ces jeunes avec le business du cannabis. La police de proximité pourra marcher si ce business est enlevé des quartiers. Si ce business continue
Christophe,
à être dans les quartiers, à faire peur aux gens, à enrôler des jeunes, à pouvoir peut-être...
Christophe, pardonnez-moi...
La police de proximité, mais en incluant la population, les gens...
Pardon Christophe, excusez-moi de vous interrompre. On a bien compris où était votre question. Vous dites que vous demandez à voir et vous êtes inquiet du deal de cannabis qu'il peut y avoir dans les cités. Je vous interromps juste parce que la ligne est très mauvaise et qu'on a du mal à vous entendre. Bien sûr que c'est aussi à ça que ça sert, Majid Siocine. Est-ce que ça sert la police de proximité, aller chercher dans ces petits trafics-là, débarrasser les cages d'escalier de ces trafics-là? Est-ce que ça a un sens? Ça vous paraît faisable, vous?
Alors c'est là où moi je salue l'initiative d'une police de proximité qui serait plus proche des citoyens, qui serait plus en accord avec la population locale, qui connaîtrait mieux le milieu, ça tout à fait. En revanche, je reste quand même beaucoup plus circonspect sur la question du maintien de l'ordre, parce qu'il y a quand même un problème de maintien de l'ordre et de rétablissement d'une certaine forme d'ordre tout court dans certains quartiers populaires qui ont droit autant que les quartiers bourgeois et mieux dotés de la population française. Je ne crois pas du tout, je ne crois pas un seul instant que la police de proximité puisse mettre fin aux organisations mafieuses qui se sont installées dans certains quartiers et fasse tomber des trafics extraordinairement lucratifs. Hein, une cage d'escalier, ça rapporte entre 40 000 et 150 000 euros par mois. Il y a une organisation pyramidale avec les petits chauffeurs qui touchent 100 à 150 euros, qui sont recrutés dès 13-14 ans. Les nourrices qui touchent 2000 euros pour accepter de servir de lieu de stockage pour le cannabis. Souvent des mères de famille isolées. Et ceux qui tirent vraiment les bénéfices les plus juteux de ce trafic énorme, que ce soit ici ou en Espagne ou au Maroc ou en Tunisie ou en Algérie, puisqu'on sait très bien qu'il y a des transferts de fonds et qu'on voit dans certains quartiers prospérer des commerces mirobolants dont on se demande l'origine des fonds.
Yves Lefebvre, est-ce que parfois vous vous dites, vous aussi, côté police, tous ces petits trafics-là, tout ce que décrivait à l'instant Magic Siocine, on est quasi impuissant face à ça dans certains endroits?
Je dirais qu'à l'heure actuelle, on est impuissant. Pourquoi? Parce que je suis un ancien policier de proximité, à un moment de ma carrière, et je l'ai dit tout à l'heure, on ne donnait pas les moyens de le faire. Aujourd'hui, on a complètement déserté ces quartiers. Nicolas Sarkozy, effectivement, en 2003, il avait dit au Mirail, à Toulouse, on n'est pas là pour jouer au foot, nous ne sommes pas des travailleurs sociaux. Et on a abandonné. Et on a abandonné, ensuite on est rentré...
C'était à Bellefontaine, mais c'est pas grave.
Oui, enfin, vous voyez, on n'en était pas loin, on n'en était pas loin. Enfin, je me rappelle surtout à l'époque du directeur départemental
de la
sécurité publique, qui fut par la suite premier adjoint au maire, je crois, ou au moins adjoint au maire en charge de la sécurité.
Bref.
Toujours est-il qu'on a eu donné simplement ensuite une réponse sur des actions ponctuelles, où on a créé des unités. Alors un jour, les unités territoriales de quartier, ensuite les brigades de surveillance du territoire, et j'en passe, c'est des meilleurs. Où là, on rentrait qu'à des moments donnés. Aujourd'hui, effectivement, on va pas annihiler tous ces trafics. C'était une omission de terrain, pardon. On va pas la mettre à plat du jour au lendemain. Mais c'est petit à petit, en ayant cette capacité à le faire, c'est un travail de longue haleine. Il faut pas que ça soit, on le disait tout à l'heure, M. Bélin, il faut pas que ça soit du ponctuel. Il faut pas que ça soit une réponse ponctuelle à un besoin ou un effet, passez-moi l'expression, un effet de mode ou à une annonce politique. Ça va être un travail de longue haleine et pour ce faire, il faut se donner les moyens de le faire.
Moyens, vous parlez d'argent, vous parlez d'effectifs,
parle
vous parlez
de moyens des humains, deux, de moyens humains, de moyens matériels et à un moment donné aussi, mais là plus particulièrement sur la région parisienne, il faudra trouver la solution pour réellement fidéliser les policiers sur Paris et sur sa banlieue. Maintenant, il faut qu'on puisse avancer pas à pas avec, je le dis très clairement, avant de mettre la police de sécurité du quotidien au quotidien, faisons l'état des lieux, réorganisons la police nationale. Si on ne le fait pas, on aura un effet de mode et qui avortera très très vite malheureusement.
Et en même temps, les gens, à l'époque en tout cas, ils avaient l'air de bien aimer leur police de proximité. Et c'est votre cas, Jean-Pierre, bonsoir.
Bonsoir.
Vous aimiez votre police de proximité, vous, apparemment.
Ben, c'est pas que je l'ai connue particulièrement, mais je me dis que la suppression de la police de proximité a provoqué le fait que les enfants des banlieues laissés à eux-mêmes et les familles laissées à elles-mêmes n'ont pas pu être accompagnés par des agents de la force publique qui pouvaient savoir tous les problèmes qui se passent dans les quartiers, dans les immeubles, dans les couloirs, dans les halls d'immeubles et tout ça. Et disons que pardon, je suis essoufflé.
Mais je vous en prie, reprenez votre souffle, on a tout notre temps.
Si la police de proximité n'avait pas été supprimée, nous aurions énormément moins de problèmes, y compris à l'école, parce que les quartiers, y a l'école, ça se répercute à l'école. C'est partout, enfin, tous les problèmes que nous avons, beaucoup, énormément de problèmes que nous avons, viennent de cette suppression de la police de proximité.
Jean-Marie Villain, monsieur le maire, qu'est-ce que vous répondez à Jean-Pierre ?
C'est pas tant une réponse, mais encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il faut prendre du temps. Et je pense qu'effectivement, d'abord poser les problèmes plutôt que de revenir en arrière, savoir fallait pas, ça a été fait de toute façon, maintenant il faut en tirer les conclusions. C'est beaucoup plus important maintenant.
On peut se demander pourquoi ça a raté, ceci dit, pour éviter de le refaire.
C'est pour ça que la façon dont on va mettre en place, il faut justement y réfléchir avant pour éviter justement de retomber dans ces travers d'horaire, ces travers de week-end où il n'y avait plus personne. Il faut permettre surtout, si on se décide à remettre des policiers dans la rue au plus près des habitants, c'est ça la proximité. C'est ce que je fais au quotidien. Je suis un élu que je considère de terrain. Et donc, mais il faut du temps. Il leur faudra du temps. Il ne faudra pas juste les installer et qu'ils soient un jour ou l'autre les variables d'ajustement parce qu'à tel endroit, il y aura eu un problème. Il faut impérativement qu'ils aient du temps pour tisser ce lien, pour travailler justement, pour connaître les directeurs d'école, les directeurs de MJC, les responsables d'associations, parce que sinon, c'est voué à l'échec.
Vous vouliez intervenir, Emmanuel Leclerc.
Oui, alors effectivement, à l'époque, on avait embauché, je crois, plus de 4000 ADS, adjoints de sécurité, et notamment, ce qui était considéré comme important, c'est qu'ils s'occupaient des points écoles. La sortie des écoles, ça leur permettait d'avoir un contact avec les mamans, justement, dont on parle, de connaître éventuellement les soucis de leurs enfants, les histoires de famille. Et le problème, c'est que c'était des jeunes futurs gardiens de la paix qui manquaient de formation. La formation n'a pas été assurée. Là aussi, il a manqué de moyens.
Vous posez la question, est-ce qu'il faut Yves Lefebvre, il faut des flics d'un certain âge, mais je le dis très sérieusement, il ne faut pas de jeunes flics quoi, dans ce genre de...
Il faut réussir à trouver un juste milieu. Il faut effectivement un bon encadrement de policiers aguerris, bien sûr, avec aussi des jeunes qui vont être plus près, je dirais, de par le créneau d'âge, plus près d'une certaine population de ces... Mais pas que de ces quartiers, parce que j'insiste bien, je rejoins monsieur le maire de Viry-Châtillon. Quand j'ai eu l'occasion de rencontrer Emmanuel Macron pendant sa campagne, et il nous avait parlé de police de proximité. J'ai dit non, revenons pas sur le passé, ne nous parlez plus de police de proximité. Parlez-nous de police de sécurité au quotidien, pour tous. Parce qu'il n'est pas question non plus de déshabiller certains quartiers réputés étant plus tranquilles, ou certains centres-villes, pour mettre plus de policiers dans certains quartiers supposés réputés être plus difficiles. Non, il faut aujourd'hui qu'on puisse avoir la même sécurité pour tous, en tout lieu, en tout moment. Pour ce faire, n'inventons rien. On a ce qu'on appelle chez nous le service général, l'appel 17, les polices secours. Ce sont ces services-là qu'il faut renforcer. Pourquoi ? Parce qu'ils occupent le terrain 24 heures sur 24. Arrêtons avec... L'un des principaux fléaux aussi de cette porte de proximité fut la politique du chiffre. Effectivement, reconquérir des terrains, on ne va pas apporter du chiffre, passez-moi, et ça va prendre du temps. On va reconquérir la confiance et on va aussi instaurer une certaine crainte pour une partie de la population minoritaire qui aujourd'hui ont complète défiance avec les forces de l'ordre. Mais ça, ça ne rapportera pas dans les rubriques des statistiques, ça ne rapportera rien. Et justement aujourd'hui, si on veut faire quelque chose, bannissons la politique du chiffre et mettons la police de sécurité au quotidien pour tous, en tout lieu et en tout moment.
Au 01 45 24 7000, je voudrais qu'on écoute Nouredine. Nouredine, bonsoir, bienvenue sur Inter.
Oui, bonsoir.
Et on vous écoute.
Alors moi, je voulais aborder un point qui me paraît fondamental si on veut que la police de proximité fonctionne. C'est qu'il faut établir un respect mutuel et une confiance mutuelle entre la police et les habitants des quartiers, notamment les jeunes. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un langage qui soit respectueux des deux côtés, c'est-à-dire éviter le tutoiement, éviter de parler de façon un peu vulgaire dans les deux sens. Et c'est que comme ça qu'on arrivera à en fait que ces gens se sentent reconnus et puis qu'ils sentent que la police elle est pas là que pour verbaliser ou pour les fliquer, elle est là pour essayer de maintenir un certain ordre, une certaine confiance et un dialogue avec les habitants des quartiers.
Merci beaucoup Nouredine. Et c'est vrai que Majid Tiosin, ce qu'il dit, Nouredine, on l'entend énormément, oui, enfin, beaucoup, le respect, le langage. Il faut que chacun fasse son chemin de son côté pour qu'une police de proximité fonctionne. Ça aussi, ça fait partie du jeu.
Oui, enfin, je pense que les policiers, d'abord, il faut d'abord rendre hommage aux policiers qui font un travail très difficile dans un milieu extrêmement complexe, avec peu de reconnaissance, ça il faut le dire. Il y a peu de gratification. Il faut quand même comprendre que les policiers sont hétérogènes. On a parlé de policiers aguerris, on a parlé de jeunes policiers. Alors il y a des jeunes policiers qui sont perçus comme des cow-boys et qui ont effectivement un comportement de cow-boy.
Et les quartiers sont hétérogènes aussi, d'ailleurs. Aussi, voilà. Profitons-en pour le dire au passage.
Voilà. Hein. Il y a qui ont un comportement de cow-boy avec le tutoiement. On sait très bien quelle est cette problématique du contrôle au faciès qui a été prouvée. On a attendu pendant longtemps. Il y a de nombreuses associations qui militent pour qu'on mette en place un processus de lutte contre le contrôle au faciès, même si c'est pas facile. Hein. On a vu que François Hollande a chopé. On sait très bien que la population a fait un distinguo parfait entre les, je ne veux pas opposer les deux corps, entre les gendarmes et les policiers. Mmh. Et on sait très bien que quand on est contrôlé par un gendarme, on a très peu de chances d'être tutoyé, ce qui peut arriver très fréquemment avec les policiers.
Alors, pas de règles, évidemment, hein, mais effectivement, la confiance, ça marche. Je disais pas de règles sur le temps qu'il faut à un policier pour être bien aussi dans son endroit, proche des gens. On a l'impression quand même, et en écoutant les auditeurs d'Inter aussi, qu'on aime bien, on n'aime pas trop les flics, mais on aime bien son flic. Est-ce que ça compte, ça, par exemple, chez vous, à Véry-Châtillon, Jean-Marie Villain ?
Ça compte, et d'ailleurs, la police municipale est ressentie de cette façon-là.
Celui qu'on reconnaît, celui qu'on connaît, celui qui passe.
C'est pour cette raison que le temps que l'on mettra, que si on ne cède pas, justement, à cette urgence de résultats, je ne parle pas de chiffres, moi, mais de résultats, il faut absolument laisser aux policiers qui vont faire ce travail le temps de pouvoir tisser ces liens pour pouvoir justement faire du résultat, mais du résultat positif. Je ne parle pas de chiffres, mais de résultat positif. Mais encore une fois, je m'associe bien entendu à l'hommage qu'on doit rendre aux forces de l'ordre, parce que bien entendu c'est très compliqué. Je vous dis pas Viry-Châtillon en tout cas, mais je peux vous dire que le travail qu'ils font depuis que je suis élu, moi les relations qu'on a pu tisser justement avec eux, ils sont présents dans tous les domaines, dans les CLSPD ils sont systématiquement présents, on essaye, c'est le conseil local de sécurité où on peut, il y a des rencontres avec les directeurs d'établissements scolaires, avec les associations, tout ça c'est ce lien là qu'il faut absolument faire. Mais encore une fois, je pense que l'hommage, il est franc, sincère. Et je peux vous dire que moi, au quotidien, quand je les vois travailler, les policiers, j'en vois très souvent, eux, se faire insulter, se faire caillasser, se faire cracher dessus, se faire... Et je peux vous dire que c'est remarquable la façon dont ils se tiennent, parce que je ne suis pas sûr que moi, je tiendrai de la même façon.
France Inter, le téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le mot-clé TELSON.
Et beaucoup de questions aussi sur franceinter.fr. Exemple, et ça c'est pour vous Yves Lefebvre, je suis pas sûr que vous allez aimer. Ne faudrait-il pas arrêter de les appeler les policiers mais plutôt médiateurs ou autres, un nom moins chargé du passif de la police actuelle?
Ça me fait me rappeler quelques... concept de campagne de Jean-Luc Mélenchon, hein, qui prétendait vouloir désarmer les policiers. Non, c'est une grave erreur. Non, il faut pas aujourd'hui le policier, le gardien de la paix. Voilà, tout est dit. Moi, je suis un gardien de la paix. La paix, c'est garder la paix, garder les valeurs de notre République. Non, bien évidemment, il faut absolument pas changer de nom. Très loin s'en faut. Et certainement pas comme prétendait vouloir le faire Jean-Luc Mélenchon, désarmer la police nationale, certainement pas.
Jean-Marie Villain, ça c'est plutôt pour vous parce que vous avez eu hélas une expérience difficile en la matière en 2016. On se souvient des cocktails Molotov contre les policiers sous une caméra entre Grigny et Viry-Châtillon. À quoi servent les caméras de sécurité si personne ne les regarde, même après un appel téléphonique d'alerte ?
Alors écoutez, je ne sais pas de quel sujet il s'agit précisément, mais enfin les caméras servent justement à résoudre des affaires, et je peux vous dire que ça sert beaucoup. Elles continuent de servir d'ailleurs encore, notamment sur les secteurs où elles sont implantées, que ça soit sur Viry-Châtillon, mais également sur tout le territoire, que ce soit sur Juvisy, Athis, etc. On s'aperçoit que très rapidement, on peut avoir effectivement, elles sont regardées, bien entendu. Je comprends pas trop la question parce que elles sont regardées en l'occurrence.
Monsieur a l'impression qu'elles servent à rien, en fait. Chacun peut en avoir aussi la perception.
Mais pour autant, il y a des règles en matière de visionnage. Heureusement, il y a des règles en matière de visionnage. Je ne peux pas regarder les caméras de Viry-Châtillon. Et c'est tout à fait naturel que je ne puisse pas le faire. Mais par contre, sous la moindre réquisition des forces de l'ordre, les forces de l'ordre peuvent les visionner, et ça sert justement, que ça soit pour des petits délits ou pour des affaires plus importantes.
Comme chef de projet de la politique de la ville de Clichy-sous-Bois, j'ai été responsable du lancement du contrat local de sécurité lancé par Chevènement. Et je trouve assez scandaleux de dire que c'était un échec, même s'il est vrai que dans un premier temps, les délits ont augmenté. Parce que pour la première fois, les habitants osaient porter plainte. Est-ce qu'il y a eu un phénomène de ce genre-là, Yves Lefebvre ?
Oui, effectivement, il y a eu un phénomène. Si vous voulez, je reprends les propos un peu de M. Villain tout à l'heure, on va pas, ça sert à rien de faire un constat, de revenir sans arrêt sur l'arrière. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. À l'époque, nous, syndicats, déjà à l'époque, signifié à Jean-Pierre Chevènement, qu'il fallait prendre le temps, faire déjà l'évaluation qui est nécessaire aujourd'hui. Elle n'a pas été faite à l'époque. Mais pourquoi la police de proximité de Jean-Pierre Chevènement a échoué? Parce qu'on était exclusivement dans le préventif. Et si si le préventif n'est pas associé au répressif, nous n'avancerons pas, absolument pas. Et à l'époque, on était placé sous le sceau de l'angélisme. Et c'est pour ça que ça a autant échoué. On demandait plus, effectivement, à l'époque, de jouer au foot avec certaines associations. Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais il faut garder quand même, le cœur même de métier, la raison d'être du policier à un moment donné.
Emmanuel Leclerc, très vite, et puis Christian nous attend au standard.
Les différentes sources que j'ai pu aborder ces derniers jours pour parler de ce thème-là disent que, de toute façon, la loi aujourd'hui ne permet pas de lutter efficacement contre les rodéos, les occupations d'immeubles ou les voitures ventouses. Est-ce que ça, c'est un vrai problème quand on est maire?
Alors, voiture ventouse, c'est un problème parce qu'il y en a énormément. C'est une réalité. Mais
pardon,
dire
pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi une voiture ventouse?
Une voiture qui traîne pendant une semaine, 15 jours, 3 semaines, deux mois, des épaves, on va dire. Ça, dans la réalité, c'est du ressort de la police municipale. Et nous, on agit. On a enlevé, je crois, 250 véhicules l'année dernière. Ça a un coût parce qu'on essaie de refacturer, mais pas toujours. Et en ce qui concerne les rodéos, c'est pour cette raison que, encore une fois, on parle de proposition de loi. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on ouvre le débat de façon à se permettre aux policiers de travailler correctement. Pour le moment, ils n'ont pas encore ni les outils, ni les ordres, forcément, pour le faire de la meilleure façon possible. Moi, c'est ça que je voudrais lancer avec Romain Reda et Vincent Delahaye. On veut surtout travailler à ouvrir le débat. Et encore une fois, c'est pas une proposition de loi supplémentaire. Je veux juste que ça permette qu'on écoute tout le monde, qu'on écoute les policiers, qu'on écoute les élus, qu'on écoute les commerçants des villes pour voir comment on peut trouver des solutions.
Je voudrais qu'on rejoigne Christian qui nous a appelé au 01 45 24 7000. Christian, vous voulez faire une comparaison qui est peut-être bien utile.
Oui, je voulais simplement apporter une précision sur le dialogue avec la police. Mon épouse qui est allemande, elle m'expliquait qu'en Allemagne, il y avait des policiers référents qui passaient dans les écoles régulièrement, que ce soit même à la maternelle ou en école primaire. Et du coup, les jeunes étaient habitués à voir des policiers de l'uniforme qui leur expliquaient leur métier, ce pourquoi ils étaient là. Et ça aide beaucoup à l'appréhension de la police et de plus avoir peur simplement du policier, de se rendre compte que c'est un être humain comme un autre qui travaille et qui est là pour aider plutôt que pour sanctionner.
Merci beaucoup Christian. Vous faites ça chez vous, Jean-Marie Villain, ou pas?
Écoutez, en attendant, c'est une des propositions que nous voulons faire en ce qui concerne les rodéos. Je pense que faire de la prévention et que des policiers qui sont eux confrontés à ces problèmes au quotidien et régulièrement, puissent aller expliquer d'une part les dangers, la loi, ce que ça peut coûter de le faire, le danger en termes de sécurité pour eux et pour les habitants. Et c'est eux qui peuvent expliquer ça le mieux du monde. c'est vrai que si on avait des personnes, mais encore une fois, c'est toujours la durée. Mmh. Il faut impérativement que ces policiers, qui seraient des référents dans les écoles et avec certaines associations ou MJC, eh bien, restent suffisamment longtemps pour qu'on puisse les reconnaître en tant que tels. Moi, on me reconnaît dans la rue. Eh bien, je pense que si on peut reconnaître aussi le policier qui passe régulièrement et pouvoir bien le connaître,
on pourra
parler avec lui, parler même de ses problèmes éventuellement et des problèmes qu'il rencontre dans sa cage d'escalier.
Damien, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez été d'une patience d'ange, ça fait 30 minutes que vous attendez et je m'en excuse, on vous écoute tous avec beaucoup d'attention.
Alors voilà, dans le contexte économique actuel, la baisse des dotations de l'État, l'état d'urgence, pouvons-nous recréer une police de proximité, qu'elle soit nationale ou municipale, avec de vrais moyens humains, techniques et financiers ?
Alors, la question est bien arrivée et Jean-Marie Villain était en train de me faire un geste. Vous êtes en train de dire...
Bien entendu, c'est vrai qu'il faudra réfléchir en termes d'effectifs et j'ai bien parlé qu'il ne fallait pas que ça soit une variable d'ajustement ceux qu'on va mettre sur le terrain. Ça, c'est la première chose. Il va falloir trouver des financements, mais tout ça, c'est pour ça qu'il faut aussi préparer, qu'il ne faut pas balancer comme ça des grandes phrases ainsi. Et puis encore une fois... Bien entendu, la police municipale a un rôle à jouer. La police municipale n'a pas vocation à augmenter en effectif. Moi, elle a vocation à augmenter en effectif, mais je le paye. Les habitants de Viry-Châtillon, avec leurs impôts, payent cette augmentation d'effectifs. À partir du moment où une décision, c'est une mission régalienne de l'État que celle de la police, et je vous rejoins sur le terme police, c'est important. La police, c'est pas un gros mot, c'est au contraire. Ce sont des gens qui se dévouent pour la paix et pour la sécurité des Français. Je pense que c'est important et bien ne pas confondre entre la police municipale et la police nationale, bien entendu, c'est un financement qui doit être de l'État. C'est une évidence.
Yves Lefebvre, si vous aviez une baguette magique et qu'on pouvait vous donner autant de policiers que nécessaire pour que la police de proximité dont vous rêvez soit la meilleure, quel chiffre vous mettriez sur la table ?
Vous savez, on nous a annoncé 10 000 emplois, 7 500 policiers, 2 500 gendarmes. Moi, je considère...
Alors, sur le quinquennat.
Sur le quinquennat. Ouais. Moi, je considère que si on veut effectivement lutter efficacement contre le terrorisme, c'est parce que... Pourquoi ? Parce que l'un des leviers de lutte contre le terrorisme, c'est aussi de réoccuper le terrain, de réoccuper les quartiers, mais pas que les quartiers, les centres-villes. D'être au plus près de ce qui se passe réellement, d'être à la source de l'information. Il faut qu'on multiplie les chiffres. Moi, j'ai considéré, je l'ai dit, on l'a dit, on a remis un livre blanc à tous les candidats. On considère, nous, qu'il faut 15 000 policiers de plus sur le quinquennat. Et j'ose espérer que, vous savez, quand on me parle... Monsieur Darmanin nous parle de 526 millions d'euros d'économies pour le ministère de l'Intérieur et en même temps on me parle de police de proximité. C'est pour ça que j'y attendais. Asseyons-nous, buvons frais et essayons de tout mettre ça en place rapidement, mais avec intelligence et qu'on ne soit pas dans l'effet médiaco-pédoticard.
Boire frais, c'est surtout ça le plus important. Majid Tiocine, quand on dit qu'effectivement ça peut être utile à la menace terroriste, ça veut dire que dans les quartiers, les policiers peuvent savoir qui est en train de se radicaliser, qui, etc. Vous y croyez ça ? Vous pensez que c'est possible ?
Il faudrait quand même que, dans ce cas-là, développer une vraie relation de confiance avec la population, qu'il y ait des réseaux d'informateurs, et ça, on n'y est pas encore, je crois, qu'ils puissent voir comment un jeune évolue, change, sans doute, s'ils connaissent intimement le quartier, sans doute. Mais puisqu'on parle d'argent, moi, je voudrais quand même dire qu'il ne faut pas voir que les problèmes de sécurité, par le petit bout, pardon l'expression, de la police. Il faut quand même avoir une vision un peu plus globale de la question. L'insécurité, la délinquance, la misère sociale sont le reflet de la situation de désert économique de certains quartiers, de l'absence de perspective qu'on offre à la jeunesse, du fait qu'on a laissé pendant très longtemps ces quartiers en déshérence, et que s'il y a des herbes folles qui y ont poussé, c'est pas pour rien.
Je vous entends, j'ai l'impression que c'est trop tard, en fait, dans votre bouche, que les banlieues ont tellement changé, en fait, y compris depuis ces 10 dernières années, depuis 2003, que la police de proximité est finie, qu'aujourd'hui, le travail qui a été fait à ce moment-là, il faudrait le décupler par rapport à 97-98.
Je crois que réellement, les quartiers ont changé. La Seine-Saint-Denis d'il y a 20 ans, quand moi je jouais au foot à Bobigny, et la Seine-Saint-Denis aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose.
Vous jouiez au foot avec des policiers en Seine-Saint-Denis, c'est
non,
vrai.
Non, c'était pas avec des policiers, mais à l'époque on jouait avec des gens, des franco-maghrébins, des franco-français, des franco-portugais. J'avais des camarades israélites qui jouaient au football avec nous à Bobigny. C'est plus du tout possible aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, les rapports entre les gens, le fait qu'on a laissé s'organiser les quartiers d'une certaine manière sans qu'on ait jamais voulu le reconnaître, ça a changé beaucoup de choses. Le départ de cette mixité où il y avait des petits fonctionnaires, les instituteurs, on voit encore encore quelques vieux profs qui habitent dans les quartiers, dans les cités. Ils sont plus très nombreux. À part les quartiers où les bobos sont installés à cause du prix du mètre carré dans Paris, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et il faudrait aussi développer un vrai travail anthropologique de connaissance des quartiers. Je suis pas sûr que ceux qui font des lois, que ceux qui font des projets aujourd'hui connaissent intimement ce que sont les quartiers. On pourrait peut-être interroger un peu plus les élus locaux, la population, les instituteurs, les médecins, les travailleurs sociaux, etc. Ça donnerait une connaissance plus fine des problèmes.
Et on va y venir peut-être grâce à la question de Jean-Paul. Bonsoir à vous, Jean-Paul.
Bonsoir.
Et on vous écoute.
Bien, voilà. Enfin, pour la police de proximité, enfin pour moi, c'est une sorte de copier-coller de ce que faisait la gendarmerie avant dans les campagnes, c'est-à-dire faire des patrouilles, des rondes, discuter avec les gens, les rassurer, chercher du renseignement et autres. Bien, alors, Monsieur Chevènement voulu reporter ça sur la police, pourquoi pas? C'est une très bonne idée. Bon, simplement que ça n'a pas marché, dans le sens que la police de proximité, à partir du moment où elle ne peut pas rentrer dans des banlieues violentes, enfin dans certaines banlieues violentes, elle ne peut pas faire son travail. Alors c'est bien beau de dire on va faire une expérimentation, etc., une évaluation ou autre. L'évaluation, elle est toute faite. Où on applique la loi dans ces quartiers, à ce moment, ils deviennent maîtrisés, c'est-à-dire la police peut y rentrer, ou elle ne peut pas. Ce sont des gens quand même, la police de proximité, enfin ils sont un ou deux en général, qui vont essayer de contacter les gens, mais ils vont pas pouvoir rentrer. On va vite leur lancer des choses et autres. Enfin, ça, il faut d'abord établir l'ordre avant de faire de la police de proximité. Alors qu'on maintienne la police de proximité, ou qu'on la remette en place dans les zones, disons, pavillonnaires ou plus calmes, pourquoi pas, mais c'est pas possible. C'est pas possible de les laisser dans les banlieues violentes. Enfin, faut être réaliste, là. Le monsieur qui dit, on va faire des évaluations, etc. Non, l'évaluation, elle est déjà faite depuis longtemps.
Merci de votre question, Jean-Paul. Voilà. C'est vous, le monsieur Yves Lefebvre, qui voulait faire des évaluations. Juste avant que vous répondiez, je voudrais rectifier quelque chose, quand même, parce que tout à l'heure, vous avez dit que, pendant la campagne, Jean-Luc Mélenchon souhaitait désarmer les policiers. Souvenez-vous que c'était Philippe Poutou.
Non, mais Jean-Luc Mélenchon aussi. Hein. Jean-Luc Mélenchon, lors d'un débat avec un de mes délégués, d'ailleurs.
C'est pas le débat du jour. Rendons à César ce qui appartient à César. En l'occurrence, c'était Philippe Poutou, et c'est ce que disent les auditeurs qui nous appellent. Donc, je voulais vraiment le signaler. Preuve qu'ils nous écoutent avec beaucoup d'attention. Il y a des endroits où vous n'irez pas plus avec la police de proximité qu'avec toute autre police.
Mais aujourd'hui, il faut pas prétendre, aujourd'hui, on est confronté à des zones de non-droit. Elles sont là, elles existent. Moi, pas plus bas de mon bureau, porte de Bagnolet, on a une zone de non-droit où de ma fenêtre de bureau, je vois des deals à longueur de journée. Bon, effectivement, mais il va falloir avancer par palier. Quand je parle aujourd'hui d'évaluation, non, c'est une évaluation, déjà, je parle de réorganisation. Il faut aujourd'hui qu'on évalue effectivement les moyens qu'on a en notre possession, qu'on évalue les zones qu'on doit privilégier, et ensuite qu'on réorganise la police nationale pour réinvestir ces quartiers. Il faudra concomitamment, effectivement, rétablir l'ordre républicain dans certains quartiers, et concomitamment, réinstaurer une présence policière. C'est là-dessus qu'on va gagner. Il faut qu'on réussisse à faire, je dirais, le juste dosage entre les deux.
Emmanuel Leclerc, vous vouliez ajouter quelque chose?
On a vécu ces dernières années avec des brigadiers chefs, des majors, qui se sont retrouvés à faire de la paperasse, hein, c'est le terme que vous utilisez souvent, de la procédure. Et tout le but, si j'ai bien compris, de cette réforme à venir, c'est de leur dégager du temps. Parce que qui est capable de gérer ces infos sensibles dans certains quartiers? Ce sont ces gardiens de la paix-là. Il faut de l'expérience, il faut être capable de monter un réseau d'informateurs. Vous le disiez tout à l'heure. Tant que ces gens-là n'auront pas plus de temps pour aller à la pêche à l'info et ensuite rendre compte aussi de dire on a fait ci, on a fait ça, c'est des réunions, c'est de la gestion de mails, ne serait-ce que ça, ça prend beaucoup de temps. Mais ça, pour l'instant, ils ne l'ont pas.
Il y a beaucoup d'endroits qui sont volontaires quand même déjà, puisqu'il va y avoir des expérimentations ici et là, alors Toulouse, Bézons, Roubaix, etc. Est-ce que vous savez déjà, alors on sait aussi pour quelles raisons parfois, est-ce que vous savez déjà où il faudra cibler?
Mais pourquoi justement avant de cibler, de toute façon, il faudra d'abord savoir ce qu'on va y mettre dedans. Encore une fois, j'insiste très lourdement là-dessus, mais c'est important de savoir exactement ce qu'on va y mettre avant de dire à quel endroit il va falloir les mettre. Moi je suis volontaire, hein, pourquoi pas, à Viry-Châtillon, on est prêt à expérimenter ce type de nouvelle police, on va dire, mais encore une fois, c'est bien important de bien dire, préparons les choses. Et puis concernant ces zones dites de non-droit, je voudrais quand même redonner à la police le travail qu'elle fait. On a donné des moyens à Viry-Châtillon, c'est, j'allais dire, pour une triste raison, mais on en a donné. Il y en a eu, pas à la ville, mais aux
effectifs. Depuis le 8 octobre 2016, vous voulez dire.
Depuis le 8 octobre. Les chiffres de la délinquance ont baissé parce
qu'il y a eu. On va rappeler en un mot pour les gens qui nous écoutent, juste en un mot, hein, une voiture sous une caméra, effectivement une voiture de police et un Kalachnikov. Il y a eu 4 blessés dont.
Jamais de Kalachnikov. Non,
jamais un cocktail Molotov. Autant pour moi. Cocktail Molotov, effectivement.
Oui, tout simplement une tentative d'assassinat.
Voilà, dont l'un est toujours arrêté aujourd'hui et toujours grièvement brûlé.
Donc, ce qui est important, c'est que l'État, en tout cas, je suis pas du bon côté en ce moment, mais je peux vous dire que l'État, en tout cas, et par l'intermédiaire de la préfète, a fait le nécessaire pour justement qu'il y ait des effectifs supplémentaires. On est peut-être pas tout à fait, je sais pas, les syndicats pourront mieux répondre que moi sur Juvisy, mais en attendant, il y a eu des effectifs, il y a eu des patrouilles supplémentaires. Mmh. On a d'ailleurs, au passage, fermé un des postes de police de Viry-Châtillon, un poste de police, en m'expliquant qu'il fallait avoir des effectifs supplémentaires pour patrouiller. J'étais d'accord, sauf que dans la réalité, c'est quelque chose qui n'a plus jamais rouvert. Donc, c'est encore une fois, faire attention à ne pas déshabiller une partie des effectifs de police pour aller faire quelque chose, et puis quelque chose qui pourrait, après, être à nouveau déshabillé pour aller faire encore un nouvel effet d'annonce. C'est la durée. Je crois que le maître mot de cette réforme, de cette mise en place, ça doit être la durée. D'abord pour préparer cette nouvelle police, et puis ensuite la laisser travailler correctement.
Mais alors durée, donc là, ça va se mettre en place là, les premières réunions de concertation, c'est maintenant, les premiers essais.
Les réunions a lieu jeudi soir,
voilà,
je crois.
Voilà, les premiers essais, ils vont se faire à partir d'octobre-novembre dans les fameuses villes. Combien de temps il faut pour voir, à votre avis? Sérieusement, pour qu'on se dise, bon, ça a l'air de fonctionner comme ça, voilà ce qu'on peut changer.
On peut pas se donner un échéancier. Mais là encore, tout à l'heure, j'ai cru entendre aussi, il va pas falloir que avant d'aller plus loin, ne créons pas une nouvelle police. Elle existe, cette police. Le service général, la police secours, elle existe et elle doit intervenir partout si on lui donne les moyens d'intervenir partout. Alors, une durée dans le temps, non, on peut pas se dire, bon, on va...
Pour qu'une expérience, pour pouvoir dire cette expérience ne marche pas.
Notre invité médecin, on peut dire, on va voir si les médicaments ont fait effet au bout de 6 mois.
Non, mais sérieusement, l'une des choses qu'on a reproché à la première police de proximité, c'était on n'a pas laissé le temps de s'installer.
On n'a pas
les moyens. Là, donc, pour que ça marche...
Il faudra du temps. Et je pense qu'il faudra aussi du bon sens. Du bon sens partout. Des politiques, du gouvernement, des policiers, bien sûr, mais aussi des élus. Et là, je suis curieux de savoir... Quels élus ont été concertés? Qui a pu donner son avis?
Donc visiblement, on ne vous a pas demandé votre avis à vous.
En tout cas, pas à moi ou à mes collègues. Je veux dire, ce n'est pas la question de Jean-Marie Villas. C'est la question des élus.
Parce que là aussi, demandant aussi aux policiers de terrain s'ils en pensent, et que ce ne sera pas encore une énième réforme placée sous les seuls gîtes des technocrates, parce qu'on n'avancera pas à ce moment-là.
Et Majid Siocine, c'est vous qui aurez le mot de la fin. Est-ce qu'on a demandé aux militants associatifs comme vous, par exemple, dans les banlieues?
Je crois qu'ils ont...
Mais avec qui ces gens parlent-ils?
C'est un bon résumé quand même.
Bon, il y a eu des concertations, il y en aura d'autres, et ça nous donnera l'occasion de faire un autre téléphone seul. Je vous remercie beaucoup.